Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur le thème de la semaine dernière, la vie de l'âme séparée à la vision de Dieu. Comme nous l'avons dit, l'âme séparée, donc après la mort, comparaît devant le Seigneur pour d'abord pour le jugement, et ensuite, nous avons regardé la semaine dernière cet état de la béatitude à laquelle l'âme participe, puisque l'âme qui entre dans la vision de Dieu entre dans cette vie trinitaire et qui lui procure aussi la connaissance la plus haute et la plus parfaite que ce soit de Dieu. Cette connaissance est aussi synonyme de jouissance, qui crée aussi cet état de béatitude. En elle, donc, en cette âme séparée et unie cette fois pour vivre cet état de perfection avec Dieu, chacune des personnes divines est connue en propre, le Père et le Fils, le Père et le Fils dans l'Esprit, simultanément selon l'ordre aussi des processions intra-trinitaires. Mais c'est toujours à partir du Père dans l'Esprit et par la médiation du Verbe qu'unie à Dieu, l'âme béatifiée voit Dieu. De plus, dans l'acte unique par lequel elle voit Dieu, l'âme atteint le Christ en son humanité. Voir le Christ, c'est voir le Verbe en son humanité, sans succession, certes, mais selon un ordre de perfection des natures. Ainsi, l'homme tout entier verra Dieu dans sa chair devenue incorruptible, et pas seulement l'âme. Le corps participera lui aussi à la vision de Dieu, selon un mode propre, de sorte que l'homme verra Dieu de ses yeux de chair, comme dit la Sainte Écriture. Non pas indirectement, mais cette fois-ci directement, face à face. En effet, la vie éternelle ne concerne pas uniquement notre âme, qui, elle, est immortelle. Elle concerne aussi notre corps, puisque c'est la personne tout entière qui est appelée à la béatitude. Et comme le dit saint Paul aussi, nous ressusciterons. Comme le Christ est ressuscité aussi dans son corps, nous aussi nous ressusciterons. Et c'est ce que l'affirme aussi l'Écriture lors du jugement dernier. Il y aura aussi cette résurrection des morts, et qui est un dogme aussi de foi très contesté aujourd'hui par de nombreux chrétiens, malheureusement. Beaucoup, se refusent d'entrer dans cette vision. Et pourtant, pour être chrétien, nous devons suivre les dogmes de l'Église. Le dogme de la résurrection de la chair, même si dans sa modalité, est difficile à comprendre, puisque de toute façon, nous n'avons pas l'expérience directe, mais en même temps, elle s'appuie avant tout sur la foi. Le dogme, c'est des dogmes de foi. Ce n'est pas qu'on doit tout comprendre et tout saisir, mais nous faisons confiance à la révélation. Et nous en avons déjà un prémisse de cette résurrection de la chair, je le rappelle encore, à travers la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est au ciel avec son corps. Là aussi, un autre dogme qui a été prononcé en 1950 par le pape Pie XII, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, avec son corps, donc glorifié au ciel. Donc elle est aussi le prémisse de cette création nouvelle, de la plénitude à laquelle chacun d'entre nous est appelé. Comme on l'a dit aussi, l'amour ne passe pas au second plan dans cette conception, on pourrait dire intellectuelle, de la béatitude, de l'âme qui rejoint la connaissance du vrai Dieu. Il est vrai que pour saint Thomas, la béatitude est la fin ultime de l'esprit créé. Il ne peut être qu'un acte de l'intelligence, l'acte par lequel nous lui sommes d'abord unis, est originellement, dit-il, et substantiellement notre béatitude. Or, nous sommes d'abord unis à Dieu par un acte de l'intelligence. C'est d'abord la vision même de Dieu qui est un acte de l'intelligence et substantiellement et originellement notre béatitude. Mais parce que cette opération est la plus parfaite, ce qui convient le plus, il en découle la plus grande délectation, la plus grande jouissance et la perfection de l'opération même. Ainsi, la délectation qui relève de la volonté est-elle formellement l'achèvement de la béatitude. Donc, bien sûr que notre désir aussi affectif sera complètement comblé puisque notre volonté aura rejoint aussi le bien suprême qui est Dieu. Et saint Thomas souligne que la rectitude de la volonté dans la charité est requise pour la béatitude, non seulement à titre d'antécédent, mais aussi par concomitance. Car même une fois atteinte, la rectitude de l'ordination à l'égard de la fin demeure nécessaire. Cette concomitance nécessaire, saint Thomas en souligne la raison. Elle réside non dans la détermination spécificatrice de l'acte, mais dans l'exercice de l'acte de la volonté au sein de la béatitude. Au ciel, donc, aussi, il y aura cet état de perfection. Ne peut entrer en Dieu que ce qui est pur, que ce qui est saint, que ce qui est parfait. Donc, les bienheureux au ciel sont dans cet état de perfection. C'est dire que non seulement ils ne sont plus libres de rejeter le bien subsistant qu'ils voient, de faire aussi un nouveau choix libre de la fin en laquelle ils sont définitivement fixés. Donc, puisque tout cela se passe non plus dans le temps chronos comme nous le vivons sur la terre, mais dans l'éternité, eh bien, l'acte est définitif, le choix est définitif. Ils sont définitivement fixés dans leur choix. En ce sens, ils sont au-delà de tout choix libre spécificateur dont l'objet ne serait pas la fin. Mais aussi, ils ne peuvent défaillir ou déchoir de ce bien ultime et perfectif. Ils sont donc incapables de tout mal, pleinement et définitivement accordés à la règle du bien. Donc, ça aussi, c'est important. Hein. Donc, il n'y a plus aussi d'imperfection, il n'y a plus de capacité de pouvoir faire le mal même, puisqu'ils ne peuvent plus revenir à un état défaillant. C'est dire aussi que les bienheureux sont de fait unis à la règle divine d'une façon infaillible. Ils demeurent contingents dans le bien, selon leur nature qui, perfectionnée par l'état de gloire, ne change pas ontologiquement, mais si son opération est surélevée et parfaite. Les bienheureux sont impeccables car ils sont unis à leurs règles d'une façon réelle, permanente, continue et fixe. Ils ne peuvent donc plus s'en séparer. C'est ainsi que leur bonté a un caractère de nécessité. Ils ne peuvent défaillir en fait. Ils ne peuvent se déprendre du bien, le bien divin, auquel ils étaient naturellement et surnaturellement inclinés et en lequel leur inclination ontologique, dynamique et opérative se trouve confirmée. Donc la perfection de la béatitude marque aussi cet état aussi permanent. S'il y a une béatitude, c'est parce qu'il y a aussi un état permanent de bonheur. La perfection de la béatitude dépend de l'intensité de notre amour pour Dieu, autrement dit, de nos mérites. Les bienheureux, selon la diversité de leurs mérites, verront Dieu plus parfaitement les uns que les autres, déclare aussi le Concile de Florence. Or, dans l'ordre surnaturel, le mérite est un effet de la grâce. Elle fait appel à la justice distributive de Dieu et à cette ordination de l'homme par la grâce à la vie éternelle, qui s'obtient librement et par mode de mérite selon sa justice. Donc nous avons rappelé aussi cette maxime du Saint Curé d'Ars, hein, qui nous dit qu'au ciel, tous nous serons comblés, mais nous serons comblés de manière différente, en fonction aussi de notre attente, de notre désir. Donc il n'y aura pas d'imperfection au ciel, hein, il n'y a pas de manque, tous nous serons comblés dans notre désir. La différence sera, justement, la mesure, on peut dire, sera notre désir. Il y en a qui auront plus désiré que d'autres. Il y en aura, comme il prend l'image, hein, de ce contenant, il dit, nous serons comblés que nous ayons un dé à coudre ou bien une jarre de 600 litres. Nous serons tous comblés de la même manière par l'amour de Dieu. Donc à nous aussi, bien voilà, par nos mérites, hein, et par la charité, hein, notamment, bien sûr, de faire grandir en nous ce désir, cette capacité et cette soif d'aimer le Seigneur, d'aimer aussi le prochain. Ainsi, nous augmenterons aussi notre désir et nous serons comblés d'une manière plus grande, on va dire. En tout cas, nous pouvons croître dans l'amour. Hein, voilà. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce chemin qui nous fait découvrir l'amour de Dieu, mais aussi qui nous permet d'agrandir aussi notre cœur à la dimension du cœur de Dieu. Dans l'ordre surnaturel, le mérite est un effet de la grâce. On fait appel à la justice distributive de Dieu et à cette ordination de l'homme par la grâce à la vie éternelle qui s'obtient librement et par mode de mérite selon sa justice. Notre action n'a de valeur méritoire qu'en vertu de l'ordre préalablement établi par Dieu. La grâce donne à l'homme de pouvoir mériter et de s'acheminer par sa libre coopération à sa fin dernière. Nous serons jugés sur nos mérites et démérites. En fonction de ceci, du jugement de Dieu et de sa miséricorde, nous verrons Dieu à des degrés divers en proportion de nos mérites. Puisque c'est par cette lumière de gloire, ce lumen glorié qui vient comme surélever notre intelligence, que Dieu, en ces trois personnes, peut se rendre intelligible à sa créature, plus l'intellect participe à cette lumière, plus parfaite est sa vision de Dieu. C'est donc que la puissance du lumen glorié est proportionnée au mérite et donc au degré de charité de l'âme au terme de sa vie humaine terrestre. Ce qui fait dire aussi à Saint Jean de la Croix que notre jugement sera réalisé en fonction de l'amour dans lequel nous serons engagés. Plus nous aurons aimé, plus nous aimerons. D'une manière surélevée, bien sûr, par la grâce de ce lumen glorié. C'est donc que la puissance du lumen glorié est proportionnée au mérite et donc au degré de charité de l'âme au terme de sa vie humaine terrestre. Autrement dit, la mesure de la participation à la lumière de gloire est l'intensité de la charité théologale qui est au principe des actes éthiques et dans laquelle meurt la créature tournée vers Dieu dans la foi. Par conséquent, les degrés différents de gloire récompensent des mérites plus ou moins élevés. Ainsi, le Concile de Florence peut affirmer que les âmes reçu au ciel, contemple clairement Dieu, trine et un lui-même tel qu'il est, toutefois certaines plus parfaitement que d'autres, selon la diversité de leurs mérites. Les âmes donc reçues au ciel contemplent Dieu face à face, toutefois certaines plus parfaitement que d'autres selon la diversité des mérites. Ainsi la diversité et l'inégalité de la vision des bienheureux viennent de ce que tous ne participent pas au même degré à l'infinie perfection de l'essence divine. Cette diversité, vue comme une forme intelligible, celui-ci est indivisible et ne peut être plus ou moins vu, mais du côté du sujet. Car la lumière de gloire, principe prochain de l'intuition de Dieu, n'est pas infusée au même degré à cause de l'intensité de la charité de l'homme à sa mort et des mérites dont elle est le principe prochain. Plus grande est la charité, plus grand est le désir, et le désir rend d'une certaine manière l'être qui désire apte et préparé à recevoir l'objet désiré. Donc, cette diversité ne vient pas de degré, ne vient pas de l'objet lui-même, mais bien sûr du sujet. Par suite, celui qui aura plus de charité verra Dieu plus parfaitement, et il sera plus heureux. La mesure de la vision se prend donc de la mesure de la charité exercée sur la terre. Charité qui est d'abord amour de Dieu, super omnia. Or, déjà de charité sur la terre, l'homme aime Dieu plus que lui-même et que toute chose. Cet amour surnaturel vient se greffer sur l'amour naturel de Dieu. Sous la grâce et dans la gloire, ces deux amours ne font qu'un. Dans un même élan et un même acte d'amour, le surnaturel prolongeant et perfectionnant l'amour naturel, l'assumant et le rectifiant. L'état de gloire, pas plus que l'état de grâce qui le précède, ne détruise la nature. Tout au contraire, il la suppose. C'est dire que l'homme a une inclination naturelle à l'amour pour Dieu et à l'amour aussi tout court. Il découle du dynamisme de sa nature intellectuelle vers sa fin, donc vers la vérité, et sa volonté aussi se porte vers le bien désiré et aimé. Cette dilection fondamentale est droite parce qu'elle n'est rien d'autre que l'inclination inscrite dans la nature par l'auteur de la nature. À cet amour naturel s'ajoute dans l'ordre naturel toujours l'amour explicite de Dieu. Or, c'est au plan de l'amour illicite libre que se révèle la blessure du péché originel, de sorte que l'inclination naturelle à aimer Dieu par-dessus tout peut se trouver contrariée et la volonté s'affermir dans un vouloir opposé où l'on se préfère soi-même. C'est ce qu'on appelle l'amour propre, l'amour désordonné de soi. Et donc, c'est ce qui rend l'amour de Dieu difficile, un bien suprême à atteindre, mais un bien ardu. Et voilà, nous le constatons à travers notre expérience personnelle. Nous voulons aimer, mais nous sommes limités. Ce qui fait dire à saint Paul, je constate en moi cette loi du péché qui m'entrave. Je ne fais pas le bien que je voudrais et je n'arrive pas à éviter le mal que je voudrais éviter. Donc, il y a en nous cette limite qui vient aussi de ce dérèglement du péché originel qui fait que notre amour pour Dieu est entravé par d'autres amours désordonnés, l'amour propre désordonné de soi. Ainsi, l'amour de charité vient aussi perfectionner cet amour naturel de Dieu. C'est-à-dire que l'amour surnaturel de la charité en nous va quelque peu rectifier cette défaillance dans l'amour naturel. Non au plan de l'appétit, l'inclination ou capacité radicale naturelle ou ontologique, mais au plan illicite et délibéré de l'amour de préférence. Ainsi, cet amour de charité rectifie et purifie. Car l'homme, avant comme après le péché, est quoique radicalement capable d'aimer Dieu plus que tout, mais il ne le peut pas pleinement sans la grâce. Certes, il reste capable d'un certain amour de Dieu, car sa nature n'est pas corrompue, mais seulement d'une manière déficiente, entravée, sauf si la grâce ne le rectifie dans ses puissances d'agir. Lorsque saint Thomas dit que c'est par sa nature même que l'homme aime Dieu plus que soi-même, d'un amour d'amitié, il veut dire que l'homme en est radicalement et ontologiquement capable, puisque tout ce qui appartient à la nature métaphysiquement considérée reste intact après le péché originel, ce qui nous donne la possibilité de la conversion, justement. Ainsi, tout ce qui est amour ontologique, appétit naturel, même l'appétit naturel de la volonté, reste intact. Cet amour se porte d'ailleurs à la fin dernière. Cependant, dans l'état de nature déchue, l'homme n'est pas capable, au plan de l'exercice, au plan de l'amour illicite et libre, sans la grâce, aimer Dieu plus que tout, même imparfaitement. Pour l'aimer de charité, il faut la grâce comme élevante, mais aussi déjà pour l'aimer par-dessus tout au plan naturel. Il lui faut la grâce comme guérissante, parce que cet acte implique qu'on prenne Dieu pour fin. Et dans l'état de nature déchue, l'homme ne peut se fixer ainsi sur Dieu, fin naturelle, qu'en l'acceptant comme fin surnaturelle. Au plan de l'exercice, l'homme, sans la grâce, est incapable d'aimer librement et efficacement Dieu. Sinon, comme pure velléité, disent les scolastiques. Il est donc impossible à l'homme, dans l'état de nature déchue, d'aimer naturellement et librement Dieu sans que sa volonté soit rectifiée par la grâce. Cette rectification ne peut se réaliser que par rapport à Dieu, unique fin surnaturelle, ultime de tout l'ordre de la nature et de la grâce. Alors, cette réflexion sur ces notions théologiques est très importante, hein, parce qu'elle nous fait comprendre que la grâce agit dans notre nature déchue dès maintenant. Quand on parle justement de la grâce de la rédemption, souvent nous voyons par rapport justement à notre fin ultime et à travers, par rapport à la béatitude, par rapport à notre entrée au ciel. Mais nous avons du mal à voir les conséquences positives que cette grâce opère en nous dès maintenant. Or, la grâce opère en nous, eh bien, cette guérison et cette rectification de l'appétit, c'est-à-dire de l'appétit dans le sens de l'appétit de la volonté qui cherche le bien aimé et l'appétit de l'intelligence qui cherche la vérité, donc est comme rectifié par la grâce pour que bien nous puissions rejoindre plus facilement et plus profondément le bien surnaturel qu'est Dieu. Donc nous voyons que la grâce, eh bien, a produit son effet en nous. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui est aussi sanance, c'est-à-dire guérissante. Elle guérit cette blessure du péché sans pour autant l'enlever totalement. La grâce ne nous remet pas dans le paradis terrestre. Nous sommes malheureusement toujours dans une certaine limite et toujours le foyer du péché demeure en nous. Et donc nous sommes toujours limités. Mais, eh bien, il y a déjà cette grâce qui nous est donnée par Dieu, qui fait que, eh bien, voilà, la vie divine en nous, eh bien, voilà, retrouve son élan, et de nouveau vivifiée. Il est clair que la différence entre les bienheureux tient à leur degré d'amour, de charité pour Dieu et pour le prochain, et non à la qualité et à la perfection de l'amour naturel de Dieu. Rappelons cette phrase de saint Jean de la Croix qui nous dit « Au sort de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Eh bien oui, ce jugement sur l'amour, il n'est pas seulement que de nous faire entrer au ciel, mais elle décide aussi de notre degré d'amour qui nous permettra d'aimer Dieu plus ou moins selon ce qu'on aura aussi, cette capacité d'aimer, l'amour qu'on aura aussi engagé sur la terre, cet amour de charité pour Dieu et pour le prochain. Donc tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans la croissance, il nous faut chercher à aimer et à aimer toujours plus et toujours mieux. La différence dans la béatitude est donc causée par la différence de charité. Tous voient Dieu, mais ceux qui l'ont davantage aimé d'amour, de charité, en jouissent plus intensément. La béatitude consiste en la parfaite possession de Dieu. Voilà pourquoi celui dont le cœur brûle davantage de l'amour de Dieu aura lui aussi une plus grande jouissance de la vision divine. Les bienheureux sont appelés les élus de Dieu, les prédestinés, ceux qu'il a par miséricorde spécialement et immédiatement ordonné à lui et qui auront par grâce méritée au terme de leur vie d'y parvenir. Cette grâce du mérite surnaturel implique la coopération de la créature à sa fin dernière, coopération nécessaire car Dieu ne veut pas nous sauver sans que nous y participions de quelque façon. Si tel ou tel est trouvé plus digne en mérite qu'un autre, c'est un fruit de grâce, de l'amour toujours prévenant et premier de Dieu, sans lequel il est impossible de lui plaire. Dieu fait notre sainteté et notre mérite. Ainsi, puisque l'amour de Dieu est cause de la bonté des êtres, l'un d'eux ne serait meilleur qu'un autre si Dieu ne voulait pas un bien plus grand pour lui que pour un autre. Dieu aime tous les prédestinés, mais il y en a qui l'aiment d'un amour d'élection et de prédilection singulière. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin peut dire que toute créature rationnelle est conduite par Dieu à sa fin bienheureuse de telle manière qu'elle atteigne le degré de béatitude déterminé par la prédestination divine. Les nombreuses demeures dont Jésus parle dans l'Évangile correspondent aux différents degrés de participation à la béatitude qui ont été de toute éternité préparés par Dieu dans la prédestination et auxquels il conduit en fonction des mérites. Voilà, chers auditeurs, eh bien, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Au terme de cette émission, donc, voilà, nous sommes stimulés à aimer plus le Seigneur, à l'aimer davantage et ainsi à correspondre à la grâce qui nous prépare déjà au ciel, cette demeure dont parle Jésus dans l'Évangile. Alors je vous souhaite à tous une bonne semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.
Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.